Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La situation est ce soir très évolutive au niveau international. Il n'y a pas ce soir d'épidémie en France.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, le 23 février 2020.
Nous sommes au tout début de cette épidémie. Nous sommes organisés et en particulier nos SAMU affrontent les débuts de cette crise.
Emmanuel Macron, président de la République, le 10 mars 2020.
Depuis le 1er mars, nous déplorons 7091 décès. Dans les dernières 24 heures, un total de 607 décès a été enregistré en milieu hospitalier.
Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, le 7 avril 2020, lors du record de décès quotidiens dus au Covid-19. Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et dans ce podcast, que vous retrouvez sur Apple Podcasts ou Spotify, on va revenir en 4 épisodes sur la pandémie de Covid-19, 4 ans après le premier confinement en France, le 17 mars 2020. Rappelez-vous, fin 2019, une mystérieuse maladie apparaît dans la ville de Wuhan, en Chine. Un virus d'origine inconnue qui déclenche des symptômes de détresse respiratoire et aussi des réactions inflammatoires incontrôlables. Ce virus, qui va être baptisé SARS-CoV-2, provoque une épidémie de Covid-19 dans le monde, décimant les personnes les plus fragiles. 4 ans plus tard, quels sont les chiffres de la pandémie? Combien de décès? Combien de malades? Pourquoi ces chiffres ils sont aussi difficiles à obtenir? Dans ce premier épisode, Anissa Boumediene, journaliste santé à 20 minutes, revient sur ce virus qui déferla sur le monde en 2020 et qui sévit toujours en 2024. Bonjour Anissa, tu travailles sur ce nouveau coronavirus depuis le tout début de la pandémie.
Depuis, ouais, comme tu dis. Bonjour Anne-Laetitia. Pour moi, le tout début, c'est tout début janvier 2020, où justement je fais mon tout premier papier coronavirus, qu'on appelle tous à l'époque cette mystérieuse pneumonie chinoise, rapidement devenue le Covid-19, le SARS-CoV-2. Et effectivement, à ce moment-là, on n'en sait tellement rien que les premiers experts de référence qui ont fait partie du conseil scientifique, quand je les interroge entre les premiers cas à Wuhan et les premiers cas qui vont être découverts en France quelques semaines plus tard, tous me répondent qu'une pandémie est impossible. Bon, l'histoire leur a donné tort.
4 ans après, force est de constater que c'est difficile d'avoir des chiffres qui sont clairs sur les personnes qui ont été contaminées, les personnes qui ont été malades, les personnes qui sont décédées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est où dans ces chiffres, même au niveau mondial et puis au niveau de la France?
À vrai dire, c'est assez compliqué de le savoir parce qu'il y a eu un suivi aussi précis que possible dans le dur de la pandémie avec, comme tu le disais tout à l'heure, des bulletins quotidiens, un suivi très appuyé des autorités sanitaires française, un suivi actualisé quasi en temps réel sur le site Covid Tracker. Et en fait, quand on est passé dans une autre phase de la pandémie avec l'arrivée des vaccins, la déferlante d'Omicron, le suivi s'est étiolé, il s'est même effondré. On n'a plus de données, on n'a plus de chiffres quotidiens. Les derniers chiffres publiés sur le site de Santé publique France sur le suivi du Covid, où tu pouvais retrouver le nombre de contaminations, le taux de reproduction du virus, l'incidence sur les hospitalisations. Les derniers chiffres qui ont été publiés datent de fin mars 2023, donc quasiment un an. Donc c'est pour te dire que depuis un an, il n'y a plus rien en fait.
Pour la France, parce que même au niveau mondial, déjà pendant le fort de la pandémie, il y avait des manques d'outils ou des manques statistiques. Il y a aussi des autorités sanitaires nationales qui n'ont pas les capacités de comptabiliser les personnes qui étaient soit malades, soit décédées, notamment en Afrique. Ça a été un gros vide. Aujourd'hui, selon l'OMS, presque 775 millions de personnes qui auraient été contaminées et 7 millions de personnes qui sont décédées. Mais selon le président de l'Agence sanitaire des Nations Unies, donc Tedros Adhanom Ghebreyesus, il y aurait eu au moins 20 millions de morts. Pour toi, c'est un chiffre qui est crédible ?
C'est plus crédible, dans le sens où il y a un suivi lacunaire dans beaucoup de pays. Si tu prends ça, plus tous les cas asymptomatiques, plus tous les morts qui n'ont pas été recensés, mais qui sont potentiellement liés directement au Covid-19, parce que ce sont des morts, tu vois par exemple les morts dans les EHPAD en France, n'ont pas forcément été comptabilisés dans les chiffres du Covid. Les morts en France à domicile, c'est pareil, alors que les chiffres ont démontré une surmortalité sur la période de la pandémie. Ce qui prouve bien que ces chiffres sont directement liés au coronavirus, mais qui n'ont pas pour autant été comptabilisés dans les chiffres officiels de la mortalité du Covid-19.
On rappelle, donc en France, il y a eu 170 000 décès liés au coronavirus, mais évidemment...
Officiellement recensés et probablement beaucoup plus dans les faits.
Comment expliquer aujourd'hui le ralentissement de la pandémie ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a eu cette déferlante et il y a eu différents variants qui se sont succédés. Le tournant, évidemment, ça a été l'arrivée de la vaccination.
27 décembre 2020 en France.
Avec un lancement de la campagne vaccinale qui ciblait en premier lieu les personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, dans les EHPAD, les seniors, les personnes immunodéprimées, voilà, avec des pathologies les rendant plus vulnérables face au Covid. Et dans un deuxième temps, à partir du printemps suivant, l'ouverture de la campagne au grand public. Donc évidemment, ça a changé la donne, notamment sur le nombre de cas graves, ce qui a fait baisser la mortalité liée au Covid-19. Et puis aussi, quelques mois plus tard, l'arrivée du variant Omicron a un peu rebattu aussi les cartes de la pandémie parce qu'il y a eu une déferlante, une explosion du nombre de contaminations, une explosion du coup du taux de reproduction du virus où un malade symptomatique ou asymptomatique pouvait contaminer énormément de personnes autour de lui. Et finalement, on s'est aussi immunisé par cette voie-là. Et ça explique en partie, bien évidemment, avec la vaccination, la régression de la pandémie.
Moi, j'ai fait un Omicron. Et toi ?
Oui, aussi.
Ah ben voilà.
Bon, c'était quand même un peu corsé. Hein.
C'était pas la grippette dont on a entendu parler, surtout au tout début de la pandémie. Sur les vaccins, selon le Bureau régional européen de l'OMS, qui a publié une étude en janvier 2024, 1,4 million de personnes ont eu la vie sauve grâce aux vaccins. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Covid-19, il ne tue plus ?
Alors non. Il est toujours là, il est toujours en embuscade. Alors évidemment, comme je te le disais, plus du tout dans les proportions qu'on a pu connaître au plus fort de la pandémie. Maintenant, c'est un virus qui circule toujours. Disons qu'il y a eu des déferlantes, des vagues énormes. Et forcément, quand ce sont des vaguelettes, le nombre de cas graves et de morts est moins important. Et ce qui est très important de rappeler, c'est que on parle de morts qui sont évitables par un ensemble de mesures. Ces virus-là, on peut s'en prémunir avec des gestes barrières simples.
Ben on va les rappeler.
Donc typiquement, les personnes autour de soi ou nous-mêmes, hein, je veux dire quand on tousse, quand on éternue, quand on a des symptômes, si on a la possibilité de télétravailler, il ne faut pas s'en priver. Et si on est obligé d'être en présentiel et qu'on est en état physiquement de travailler, on met un masque, on se lave les mains.
Rappelons sur le coronavirus qu'il a quand même continué de tuer. En décembre 2023, il a fait quand même plus de 10 000 décès dans le monde. Au vu de la difficulté aujourd'hui d'obtenir des chiffres stabilisés, consolidés, comme on dit, sur les personnes qui sont malades et les personnes qui sont décédées dans le monde, est-ce que tu penses que dans les 6 prochains mois, l'année prochaine, ou peut-être même dans 5 ans, ce sera plus facile d'avoir des chiffres parce qu'il y aura un peu plus de recul sur cette maladie, ou ça va être encore de plus en plus difficile d'obtenir un suivi ?
Alors, j'aimerais te dire que ce sera plus simple parce que de nouveaux outils de suivi ont été développés. La réalité, c'est que ça risque au contraire d'être plus difficile que jamais, justement parce que les outils de suivi qui ont été élaborés, déployés pendant la pandémie ont tout simplement cessé d'être utilisés, déployés. Il n'y a plus aujourd'hui de suivi. C'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans l'idée de vivre avec le virus. Quand on fait la balance bénéfice-risque, on considère qu'il n'est plus nécessaire de déployer autant de moyens pour avoir un suivi exhaustif de la progression du virus.
Retrouvez-nous demain pour le deuxième épisode sur les 4 ans du Covid-19 pour évoquer, avec Anissa Boumediene, journaliste santé à 20 minutes, propos des impacts de la pandémie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre appli d'écoute préférée, ce sera peut-être Podcast Addict. À très vite.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.